Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Il y a quelques jours des élections américaines, comment évaluer l'influence des États-Unis dans le monde dans le cadre de leur rivalité avec la Chine ?
Souvenez-vous, le secrétariat de l'Organisation mondiale de la santé à Genève a été prévenu le 31 décembre de l'an dernier qu'une épidémie virale partie de Wuhan s'étendait dans la province chinoise du Hubei. Mais cette alerte était lancée par l'île chinoise rebelle de Taïwan que Pékin a fait exclure de l'OMS. Et l'information n'a pas été transmise. Ce n'est qu'un mois plus tard, le 30 janvier, que l'organisation a fini par lancer une alerte d'urgence de santé publique de portée internationale, formule alambiquée, pour éviter d'utiliser celle de pandémie qui aurait heurté les sensibilités à Pékin. Alors oui, la Chine populaire a progressivement acquis une grande influence dans plusieurs agences internationales où on évite de contrarier cette puissance décidément bien susceptible. Est-ce une raison pour que les autres États s'en détournent et renoncent à ces instruments du multilatéralisme? Il y a bien des victoires à mettre au compte de l'OMS, comme par exemple l'éradication de la variole. Mais la logique trumpienne, celle de l'America First, tente de persuader les Américains que les États-Unis sont une île qui pourrait renoncer à assumer des responsabilités mondiales tout en se protégeant des périls qui menacent les autres. Mais enfin, le réchauffement climatique qui a fait flamber les forêts californiennes ou le Covid qui a déjà coûté la vie à 230 000 Américains, ces défis sont mondiaux et les réponses ne peuvent être purement nationales. Donald Trump a annoncé que son pays allait progressivement quitter l'OMS, retrait qui deviendrait effectif le 6 juillet de l'an prochain s'il est réélu. Les États-Unis, avec 400 millions de dollars annuels, sont les plus gros contributeurs au budget de cette organisation. Trump a déjà claqué la porte de l'UNESCO, celle du Conseil des droits de l'homme. La prochaine fois, il quitterait quelle autre organisation internationale ? L'OMC ?
Et Brice, donc, dans un article qui paraîtra en novembre dans la revue The Atlantic, Anne Applebaum met en garde contre cette politique de la chaise vide.
Oui, Xi Jinping, écrit-elle, n'a jamais caché la volonté de son pays d'obtenir une réécriture des normes et des règles internationales conformes aux intérêts chinois. Il a encouragé ses diplomates à prendre une part dirigeante dans la réforme du système de gouvernance mondiale. Il veut une mondialisation nouvelle à la chinoise. Et il est soutenu dans cette entreprise par la Russie et l'Iran, ainsi que d'autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Mais il a aussi bénéficié de l'assistance objective de l'administration Trump. Je cite Anne Applebaum. « La rhétorique anti-chinoise du leadership républicain a dissimulé une vérité. Une partie de la diplomatie américaine, et pas seulement celle qui est affiliée à Trump, a abandonné le langage de la démocratie et des droits de l'homme, qui était autrefois celui dont usaient les États-Unis à l'ONU. Elle a laissé tomber des institutions internationales que le reste du monde continue de respecter, sans offrir d'alternative. » Oui, pendant ce temps, l'influence chinoise progresse. La Chine a obtenu la direction de la FAO, de l'Organisation civile internationale de l'aviation, de l'Union internationale des télécommunications, qui est en charge de l'attribution des fréquences radio et de la coordination des satellites de télécommunications. Elle utilise la Chine ses énormes moyens financiers à travers des investissements, des prêts ou de la corruption pour avancer ses pions et étendre son influence et se créer des amis. Le projet d'ailleurs des nouvelles routes de la soie s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Aux Nations Unies, Pékin impose ses formules. On y parle de moins en moins de droits de l'homme et de plus en plus de respect mutuel entre les États. Une manière d'interdire toute critique des violations massives des droits humains élémentaires qui ont lieu en particulier au Tibet ou à l'encontre des Ouïghours musulmans du Xinjiang. Désormais, les Ouïghours, oui, qui parviennent à fuir la Chine, ne bénéficient plus du droit d'asile dans les pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont font partie la Russie, l'Iran, l'Afghanistan ou la Biélorussie. Mais même la Turquie, islamisée par Erdogan, un pays qui jusqu'à récemment a exprimé son soutien aux Ouïghours en raison de leurs affinités, ils parlent une langue turcique, la Turquie a entrepris désormais de les arrêter et de les déporter, les Ouïghours. Belle façon pour Erdogan de défendre les musulmans à travers le monde. Certes, poursuit Anne Applebaum, nous savons tous que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'est pas d'une grande impartialité. Il a accueilli dans ses rangs des États qui ne respectent pas les droits de l'homme, comme Cuba, l'Arabie Saoudite ou le Venezuela. Il n'empêche qu'il conserve une certaine capacité d'influence dans un sens positif. En tout cas, ce n'est pas en claquant la porte comme l'a fait Mike Pompeo qu'on fera avancer la cause des droits de l'homme. Mais Trump s'intéresse-t-il à cette cause comme l'ont fait tous ses prédécesseurs, qu'ils soient démocrates comme Bill Clinton ou républicains comme Ronald Reagan ? Non, écrit Ann Applebaum, elle dit « Il n'apprécie pas Trump le langage des droits universels, de la justice neutre et non partisane, parce qu'il redoute à titre personnel le verdict d'une telle justice. Il préfère la compagnie des dictateurs parce qu'il admire la puissance et la cruauté. »
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, mais aussi sur l'application Radio France. On se retrouve demain, cher Brice.